Serge Bonmarel, je suis à l'UEM à Marseille. Il y a un chiffre qui m'inquiète. Là, vous avez dit qu'il fallait 15 ans entre l'identification du besoin et la réalisation d'une infrastructure de transport.
On va prendre plusieurs...
Et Marseille, c'est une catastrophe en termes de transport collectif. Donc ça veut dire qu'on est planté pour longtemps.
Bah, comme tous les autres Français.
Merci. Gaëlle Berthoud, vous avez un petit peu parlé des problèmes de financement en indiquant que tout ça, ça coûtait très cher. L'impossibilité aussi pour les transports de récupérer la rente foncière. Et dernièrement dans la presse, alors je connais mal, peut-être que ça concernait surtout la Provence, mais on parle de la préconisation de l'autorité de régulation à faire baisser les péages. Donc dans quelque chose qu'on peut imaginer qui va encore amoindrir les capacités financières d'investissement global. Donc voilà, je voulais savoir si sur ce sujet des financements, parce que vous l'avez beaucoup évoqué sans pour autant nous donner de grandes perspectives, vous puissiez un petit peu compléter sur ce sujet.
D'abord, merci pour cet exposé. J'ai trouvé ça très excitant, intéressant. Un détail, pourquoi est-ce que CDG Express est un des trois projets prioritaires à vos yeux ? D'intuition, je crois que c'est une bonne idée, mais il y a tellement de gens qui disent c'est un réseau à deux vitesses, c'est quelques milliers de riches qu'on va privilégier, alors qu'il y a tellement de besoins plus graves pour des gens qui font ça tous les jours et qui souffrent. Donc pourquoi, dans votre souci de démocratie, c'est quand même un des trois projets prioritaires à vos yeux.
On va commencer par cette vague de questions.
Bon, alors 15 ans de procédure, mais qu'est-ce que vous voulez ? Notre structure technocratique et la superstructure politique ne trouve son accomplissement qu'en rajoutant des éléments de procédure successifs. On a la loi sur l'eau, on a la loi à la commission du débat public. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, par exemple, quand on construit une voie ferrée, il faut qu'on fasse un dossier de loi sur l'eau. Puis des espèces protégées, puis il y a des appels, puis des recours. C'est pour ça que ça met 15 ans. Enfin, on a un empilage de procédures administratives, chacune pour de très bonnes raisons fort louables. Mais ça ne facilite pas pour aller vite, quoi. Et surtout, ça a un effet pervers terrifiant. On a avancé dans le projet, on a passé la déclaration d'utilité publique, on va pouvoir engager les travaux. Merde, on a oublié un truc, ou bien alors il y a un truc qui n'était pas prévu il y a 7 ans, quand on a commencé le projet, du genre, il y a 4000 logements de plus, ou... Ah oui, non, mais on va pas changer les plans, hein, parce que sinon il faut refaire une DUP, et là on en reprend pour 5 ans. Donc on sait qu'on fait un machin, qui de toute façon, quand il sera mis en service, sera en décalage par rapport aux besoins. Mais le dilemme, c'est pas facile à traiter, hein. Faut pas rigoler de ça, c'est... Je sais que c'est pas assez bien, mais je le fais quand même. Ou alors, je repousse. Mais sachant que je peux repousser une fois, deux fois, trois fois, comme ça, 30 ans plus tard, comme à Marseille, ben, j'ai toujours rien. Vous avez une très belle nouvelle de Pirandello, qui est tout à fait extraordinaire sur ça. Parce que c'est une belle histoire, mais ça résume tout. Hein. Le conseil municipal de Palerme, en 1830, se réunit pour la question de l'éclairage public. Il dit quand même, il faudrait qu'on mette, on est une ville moderne, quand même l'éclairage public. Alors ils disent, ben à Londres, ils ont mis de l'éclairage au gaz. Ça a l'air pas mal, mais on n'est pas sûr que ce soit optimal. On va attendre. 10 ans passent, nouvelle réunion, la commission. Ouais, mais on a bien fait de ne pas faire, parce qu'en fait, à Berlin, ils ont essayé l'acétylène, ça éclaire mieux. Hein. C'est un peu dangereux quand même. On va se donner le temps de vérifier. 10 ans passent, puis on arrive à... Ah ben, on a bien fait de ne pas mettre de l'acétylène, parce que ben, à Paris, ils ont mis l'électricité, c'est encore mieux. Enfin, c'est nouveau, on ne sait pas. Résultat, 30 ans plus tard, il n'y a toujours pas d'éclairage public. Et bien, ce que je vous décris là, c'est un peu le dilemme qu'on a sur avec les procédures administratives. Bon, à un moment donné, et c'est ça aussi le contrôle démocratique est délicat à manier, c'est qu'il ne faut pas dire que les élus sont tous des abrutis ou des gens qui ne comprennent rien. Les élus ont des comptes à rendre, et la hantise qu'ils ont, c'est de se faire engueuler, soit parce que c'est trop cher, ça n'arrive pas très souvent, soit parce que c'est en retard, ça arrive plus souvent, soit parce que ça ne correspond pas aux besoins. Et donc leur inconfort, c'est qu'à un moment donné, ils sentent bien que pour le développement du territoire, il faut faire des trucs, et il faut peser le risque sur trop tard, pas assez performant, versus un journée pour aller plus loin et perdre les sacro-saintes subventions européennes ou étatiques. Donc on vit tout le temps dans la gestion de projets d'infrastructure, c'est toujours ce sketch-là. Bon, alors des fois, il y a aussi une instabilité politique qui fait qu'il n'y a pas de continuité de portage des projets et qu'on perd du temps. Les péages. Ah, les péages. Mon Dieu, si la survie du système ferroviaire ne tenait qu'au niveau de péage, que la vie serait belle. La vérité, c'est que, en fait, le réseau ferroviaire tient d'abord avec les subventions de l'État. Les péages en France, c'est ce que la subvention budgétaire ne permet pas de couvrir. Donc on ajuste le niveau des péages en fonction de la loi de finances. On revient à peu près à ça. La variable d'ajustement, parce que le régulateur veille, il dit quand même, vous ne pouvez pas jouer au yo-yo tous les ans. Donc maintenant, parce que quand j'étais patron de la stratégie de la SNCF, j'ai poussé du hurlement en disant, mais c'est quoi ce truc où vous changez les péages tous les ans et où je le sais 15 jours avant le début du service. Et vous me demandez, moi, d'acheter des trains qui durent 30 ans, il me faut 5 ans entre le moment où je les commande et on les livre. Et ce qui veut dire que quand je les commande, j'ai aucune idée des péages que je vais payer quand je vais m'en servir. Donc ça veut dire que je suis incapable de calculer la marge. J'ai vécu ça comme patron du TGV Rarun. Je passe devant le conseil d'administration, vous voulez acheter 30 trains. Vous voyez, c'est quoi la marge? J'en sais rien, je ne connais pas les péages. Mais c'est, qu'est-ce que vous foutez? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je peux vous les jouer au 421 ou demander à un voyant de sortir à Barème, je ne sais pas moi. Alors je fais des hypothèses. Mais c'est comme on veut. Et après on se dit, je reviens à une question de Michel Sally, c'est bizarre, les concurrents ne se précipitent pas. Mais attendez, comment voulez-vous qu'un concurrent qui craque 30 millions par rame de TGV et la fantaisie d'aller voir son board en disant j'achète 20 rames, 600 millions, hein? La marge, je ne sais pas la calculer, même l'an prochain. Alors, si on va attendre, je ne vous dis pas. Mais on y va, Banzai, c'est une super affaire. Mais vous rigolez. Mais le fait de faire comprendre ça à RFF puis à Réseau, c'était, sans parler du ministère des Transports, c'était juste mission impossible.
C'est une super barrière.
Ben, si c'était seulement une barrière à l'entrée. Mais ce n'est pas ça. C'est qu'à partir du moment où le péage est une variable d'ajustement fiscal, non seulement on n'a pas beaucoup de concurrents, mais on est en train de crever sur pied. Bon. Avec le caractère de force majeure qu'a la fiscalité, c'est imprévisible et irrésistible. Vous pouvez toujours pleurer que c'est pas bien. La personne à laquelle vous vous adressez vous dit « Je te rappelle que c'est moi le propriétaire, donc bon. » Voilà. Bien. Donc si les péages, c'était véritablement un signal économique, ce serait une bonne nouvelle. Aujourd'hui, ça ne l'est pas en France. Et j'ai peur que ça ne le soit pas pendant très longtemps, malheureusement. Alors, ce qu'on peut dire, c'est... L'ARAFER, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, votre hausse de péage sur le fret, c'est pas sérieux. 7% de hausse. Et vous êtes opérateur de transport. Vous connaissez, comme moi, dans la salle, le niveau d'inflation. Vous dites que sur un de vos facteurs production, vous avez une hausse de 7% qui s'explique par... le vol des cigognes au-dessus du siège de réseau. Pourquoi c'est 7% plutôt que 9, plutôt que 5? Quel est le lien avec les agrégats macroéconomiques qui sont ceux de vos clients sur votre marché? C'est juste qu'il faut que Fred paye plus parce que quand même, il ne payait pas assez avant. Peut-être que Fred ne payait pas assez avant. Sauf que 7% de step, ça veut dire que vous sortez l'opérateur d'une partie de ses marchés parce qu'il passe dans le rouge. Et comme il n'a aucune perspective de se refaire dans la durée, parce que d'une part le marché est tendu, vu la concurrence routière, et d'autre part que sa structure financière, pour Fret SNCF, comme pour les copains, c'est pareil, elle est à la limite du redressement judiciaire, et bien vous dites, à partir du moment où ma marge plonge, et bien au revoir. Et c'est là le malheur que les économistes de réseau n'ont pas encore bien compris, c'est qu'en matière de fret, quand on augmente trop les péages, on sort du marché, et une fois qu'on y est sorti, on n'y revient plus jamais. Donc on a augmenté les recettes de court terme, et on a perdu des clients quelques années après. Alors, si c'était une stratégie raisonnée de dire « je sors le fret du réseau parce que décidément c'est à rien ne gagne, ni à merde », eh bien, on le fait par étapes, et puis, bon, grosso modo, tout le monde a compris le jeu, et tout le monde se réorganise en conséquence, on garde sur le réseau que les trafics de fret qui peuvent supporter des charges d'infrastructure. Si on avait cette stratégie-là, je ne dis pas que ce serait rigolo, mais au moins, ça aurait une forme de cohérence économique. J'espère qu'un jour, on arrivera à ça. Je ne suis pas sûr qu'on y soit pour le moment. CDG Express. CDG Express, j'allais dire, c'est une conversion un peu... une sorte de chemin de Damas, si vous voulez, en allant en Roissy. Si vous regardez bien la situation, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, Roissy, c'est quand même un des poumons économiques de l'Île-de-France et indirectement du pays. Dans la bagarre de la mondialisation, l'accès de la région capitale aux marchés mondiaux et sa compétitivité pour attirer des emplois est largement tributaire de la performance du lien entre Roissy et les territoires. Aujourd'hui, ces liens sont médiocres, en tout cas pas au standard de gens dans la compétition mondiale. Donc il faut apporter une solution. Ça, c'est clair. Il est exact que le système de CDG Express amène un système de transport à deux vitesses qui n'est pas homogène. Je trouve que l'orientation prise de dire on fait payer les passagers aériens pour financer le truc est beaucoup plus saine. Parce que, grosso modo, par rapport au prix du billet d'avion, la taxe qu'on prélève n'est pas élevée. Puis après tout, c'est pour eux qu'on le fait en priorité. Dire que ça a un effet d'éviction sur le réseau, sans doute, mais j'aimerais à ce moment-là qu'on ait le courage de dire il y en a d'autres d'effets d'éviction. Moi, j'adore la ligne à grande vitesse Poitiers-Limoges. 120 000 habitants à chaque bout. Enfin, 150 000 les jours de foire, si vous voulez. On invente quand même un système de ligne à grande vitesse qu'on met à voie unique, parce qu'à deux voies, franchement, vu le nombre de trains qui circulent, ça fait beaucoup, et une voie, c'est un peu moins cher. Moyennant quoi, on serait des contraintes d'exploitation, qui veut dire que les horaires de Paris-Bordeaux vont dépendre des horaires de départ de la gare de Limoges. Non, c'est à peu près ça, mais pas loin. Et là, on est prêt à mettre des milliards. Bon, moi, je vous laisse méditer quand même, parce que dans ces arguments-là, on peut toujours... Il y a toujours une part de vérité, mais il y a aussi un besoin de cohérence. Où est-ce que la nation doit mettre en priorité de l'argent dans ses infrastructures pour garder sa compétitivité et donc nous permettre de créer de la richesse pour nous et nos enfants? Est-ce que c'est la ligne à grande vitesse Poitiers-Limoges? Personnellement, j'ai un gros doute. Même, et je dis ça non pas parce que je ne suis pas originaire du Limousin, parce que dans ma région d'adoption en Bourgogne, on avait la branche sud du TGV Rhin-Rhône, c'était du même tonneau. J'ai jamais caché ce truc-là, ça n'a aucun sens. Donc le fond du problème derrière l'effet d'éviction, c'est la paupérisation du système de transport en France. Le système est au bord de la faillite. Enfin, vous avez vu les journaux. Bon, je vous décode, quand on déprécie les actifs, ça veut dire que la rentabilité du fonds de commerce ne permet pas d'assurer l'amortissement et le renouvellement des actifs. Donc ça veut dire que quand les actifs sont usés, il n'y a plus. C'est tout. Donc c'est un signal extrêmement fort et très préoccupant qu'à un moment donné, les contribuables que nous sommes, on va devoir se serrer la ceinture pour garder un minimum de trains en France, parce que le système n'est pas autoportant. Dire que c'est avec les péages qu'on résout le problème, c'est pas réaliste. Ce qui est réaliste, c'est de se dire où est-ce que l'argent public doit aller en priorité pour le système. Le montage de CDG Express pompe un peu d'argent public, c'est exact. Mais qu'on en fasse la revue, oui. Mais à ce moment-là, soyons rigoureux et interrogeons-nous sur d'autres grands projets d'infrastructures de transport qui pompent beaucoup d'argent public. Et demandons-nous si ceux-là ont un impact meilleur ou plus faible pour la création des richesses du pays et sa compétitivité économique. Donc CDG Express, je suis d'accord, le modèle économique n'est perfectible, c'est un modèle à deux vitesses, mais il y a des fois où il faut regarder la réalité économique du monde qui nous entoure, et avoir la rage de l'égalité au risque de décrocher, pas forcément une vision courageuse sur le long terme. Enfin, c'est une opinion personnelle.
Gaël Bonnefond, direction régionale de l'équipement et d'aménagement de l'Île-de-France. Donc pour revenir au cas de l'Île-de-France, très compliqué, effectivement, si on veut justement définir où on doit concentrer l'argent public dans les prochaines années, est-ce que justement ce ne sont pas les hubs qui vont être créés avec le nouveau réseau du Grand Paris Express et du Transilien? Est-ce que vous pensez que la SGP et le STIF sont en train de mettre en place ce chantier?
Denis Boy au CGET. Je suis un peu gêné parce que votre exposé effectivement était très intéressant, mais il pointe beaucoup de dysfonctionnements, c'est ce qu'on me permet de mots, enfin en tout cas apparent, à la fois dans la gouvernance par les pouvoirs publics. Vous avez même trouvé un exemple amusant où quelqu'un qui pourrait commettre des délits coûte en amende, ou enfin, non recouvré, j'imagine, d'ailleurs, derrière. Et puis, d'ailleurs, il a pu prendre 3 trains sans problème dans votre exemple, ce qui est une bonne nouvelle. Apparemment, on peut prendre 3 trains pour faire des délits, donc j'imagine qu'on va pouvoir prendre 3 trains pour aller au travail. Mais ce que je ne vois pas dans votre exposé, et ce qui me ramène à notre sujet à nous, c'est-à-dire l'aménagement du territoire et le démocratique, c'est quand on est un politique, la parole donnée, la respecter, il n'y a rien qui nous lie contractuellement à ça. On n'est pas obligé de respecter la parole donnée après tout. On a le droit de se faire même réélire en n'ayant pas respecté sa parole. Par contre, quand on est un opérateur de transport transilien, on a un contrat avec le STIF, et donc on doit respecter ce contrat. Et vous ne dites rien sur ce que vous apportez ou vous n'apportez pas, notamment du point de vue de la productivité de la SNCF et des transiliens, sur l'aménagement du territoire en Île-de-France. Alors, est-ce qu'on peut vous entendre un peu là-dessus ? Merci.
Thierry Gourlet, donc pour la CGT. Moi, j'étais, interrogatif, c'est par rapport à si on part du principe que les infrastructures sont structurantes, comment est-ce qu'on peut laisser l'initiative très variée, et quitte à être tellement variée qu'elle peut créer des oppositions entre territoires. Et bon, ça ne surprendra personne que moi, je pense que l'État, il a un rôle important justement pour essayer de construire une structuration. Dans le cadre d'un aménagement du territoire, mais l'idée de concurrence et de compétitivité, justement, de mon point de vue, va à l'inverse de ce qui permettrait justement d'être cohérent. Et pourtant, même on l'a vu par rapport aussi à ce matin, l'évolution des entreprises qui sont chargées entre guillemets de construire des réseaux en France se lance plus dans un système de concurrence plutôt que d'un système de réponse aux besoins. Donc c'était un peu la question que je voulais poser. Donc c'est pourquoi il y a cette, pour moi, contradiction entre le choix d'une stratégie d'entreprise et le besoin d'une régulation sûrement plus importante pour essayer d'éviter de gaspiller justement et d'être beaucoup plus efficace par rapport aux populations.
Philippe Landran, responsable CFDT Île-de-France. Moi je me retrouve dans vos propos. Hein. Très franchement, ça fait partie des choses que nous on peut dire dans les instances où on peut siéger. Juste un point. Nous, on part du principe qu'il y a une problématique emploi, transport, logement. Que l'emploi sur l'île de France fait partie des régions qui créent encore de l'emploi. Les transports, vous avez développé, bien sûr, ce qui ne marche pas, mais on voit bien quand même qu'il y a des décisions qui ont été prises, certes, qui auraient dû être prises il y a bien longtemps, il y a environ 40 ans entre le RER et aujourd'hui, il ne s'est pas passé grand-chose, on va le faire comme je la fais court, mais bon. Mais il y a quand même la problématique du logement qui se pose sur l'île de France, qui engendre tous ces problèmes. On a un vrai déficit de logement, je ne parle pas de logement social uniquement, hein, de logement économiquement accessible, qui fait que les populations globalement fuient de plus en plus le centre de Paris, voire la proximité, pour aller de plus en plus loin. Et j'ai un peu l'impression que ça va être la course à l'échalote si on ne travaille pas là-dessus. Parce que les transports ne rattraperont jamais le manque de logement et les gens qui vont aller s'installer de plus en plus loin du centre de Paris. Je rappelle que la loi SRU n'est pas respectée. Il manque 70 000 logements par an qui devaient se construire sur l'île de France, ne le sont pas. Que le parcours résidentiel n'existe pas sur notre région. Enfin, tout ça fait, je pense que, c'est pour ça que je voulais avoir votre sentiment là-dessus, parce que je pense qu'on est au cœur d'un triptyque. L'un ne va pas sans l'autre, c'est emploi, transport, logement sur notre région.
Merci, enfin, je pense que vous serez d'accord sur ce point, parce que moi ce que j'ai entendu, c'est cette idée que les transports et les infrastructures sont toujours considérés comme une variable d'ajustement justement par rapport à des politiques d'aménagement qui ne sont pas coordonnées sur ces questions-là. L'autre chose, quand même, moi ce que j'ai entendu, c'est plutôt une vision assez optimiste du réseau francilien dans votre propos. Et du réseau francilien au sens où c'est en train de devenir un réseau, alors que ça ne l'était pas jusqu'à présent. Ça, c'est peut-être un point sur lequel vous pourriez un tout petit peu revenir aussi, s'il vous plaît. Et puis, je crois qu'il y a une dernière question.
Bonsoir. Patrick Serra, Journée Nationale. Alors, ce n'est pas une question, c'est juste des précisions par rapport aux questions de sécurité que vous avez abordées. Alors, article 73, je vais essayer de ne pas être trop technique. Article 73 du Code de procédure pénale, toute personne a le droit d'interpeller un individu lorsqu'il est témoin d'un crime ou d'un flagrant délit. C'est-à-dire que vos agents, qui de sécurité des moyens de transport, qui voient l'auteur du délit rentrer dans un autre moyen de transport, ont tout à fait la qualité juridique, le pouvoir juridique de l'interpeller. Deuxième, c'était le premier exemple. c'était le passage de TGI en TGI. Alors, dans le cas d'un crime flagrant, l'OPJ, alors flagrant, c'est-à-dire qu'il vient de se commettre, pardon. Donc, l'OPJ est compétent sur l'ensemble des TGI de son département d'implantation, mais y compris sur l'ensemble des TGI des départements limitrophes. Si votre train devait s'arrêter sur un autre département, c'est juste un coup de téléphone au parquet en disant on va l'interpeller sur tel département qui n'est pas limitrophe. Voilà. Donc, c'est pas parce que vous allez commettre un délit que vous allez rentrer dans le train et dire je suis perché. C'était juste ça. Merci.
En fait, il espérait trouver une martingale que. Voilà.
Merci pour l'éclairage du spécialiste sur la question de sécurité. L'exemple que j'ai pris, c'est qu'on peut avoir trois départements. Enfin, vous avez raison. Ceci étant, dans la pratique, on se rend compte que ces tâches de coordination, même si la loi le permet, sont souvent difficiles à exercer parce que les forces de l'ordre sont submergées par des tas de sujets et n'ont pas forcément le temps ou les moyens de le faire. Ce qui veut dire, de notre point de vue, qu'une rationalisation des outils et des procédures devrait rendre plus efficace ce genre de situation. Bon. Alors, je vais les reprendre dans l'ordre, si vous voulez bien, les hubs. Oui, vous avez raison, enfin, je suis d'accord avec vous, les hubs, c'est fondamental. Oui, mais on revient à la gouvernance. Le CIF est autorité organisatrice de transport. Le CIF n'a pas de compétence d'urbanisme. Il n'a même pas compétence d'aménagement. C'est la commune ou la communauté de communes qui va décider comment on aménage la place de la gare. Où est-ce qu'on met les arrêts de bus? Si on met du parking, de quelle nature? Où est-ce qu'on met les abris vélos? Comment tout ça va être organisé? Je vais prendre un exemple, je ne donnerai pas de nom, parce que je ne veux pas être polémique, mais une gare importante de correspondance entre notre réseau et la future gare de la ligne 15, la gare se trouve être à la frontière de trois communes. Alors celui qui a le parvis, qui dit « ouais », puis il y a les deux autres. Celui qui a le parvis dit « je ne vais quand même pas me gonfler les frais d'aménagement pour permettre aux habitants des deux autres communes d'en profiter sans qu'on se délie. » Rationalité limitée, respectable si on veut. Puis on regarde à l'étage du dessus, il y a quelqu'un, ben non, il n'y a personne. Et le CIF ne peut pas. Enfin, juridiquement, le CIF n'a aucune compétence. Et puis le CIF se dit, si je commence à dire, ben, c'est pas grave, je mets des sous là-dedans, alors là, c'est open bar. Et le CIF, pour de bonnes raisons, dit, moi, je ne rentre pas dans cette logique-là tant que les choses ne sont pas cadrées. Or, en fait, le fond du problème, tout le monde dit vive les correspondances, enfin, c'est nouveau, mais allons-y, les hubs, très bien. Mais la question, elle est de deux natures. À l'intérieur de la gare, comment je passe d'un moyen de transport à un autre? Ça, c'est le boulot des opérateurs, des gestionnaires d'infrastructures. Bien. Donc, SGP, réseau pour nous, gare et connexion. Le sujet, c'est juste d'avoir le fric pour faire des couloirs assez larges, des escalators ou des escaliers bien dimensionnés. Et bien, c'est là qu'on se dit que nos anciens, il y a 50 ans, ils étaient quand même, ils avaient moins bien compté ou ils voyaient plus loin. C'est tout ce que je dirais. Je vous donne un exemple. Regardez la gare de Versailles, chantier inauguré par Dautry en 1928 ou 1930. Quand même une gare qui a tenu 80 ans avec l'augmentation de trafic. Parce qu'elle a été dimensionnée dès le départ avec une logique simple et de la place qui fait qu'on s'en sortait. Là, on était au bout, puisqu'on va dédoubler la passerelle. Mais ils ont dit, on fait grand parce qu'on sait que ça va monter. Je ne suis pas sûr que dans ce qu'on va construire dans les 20 prochaines années, on ait la même largeur d'esprit ou de portefeuille. Ça, c'est le premier sujet. Liaison entre moyens de transport. Le second, c'est l'articulation du pôle des charges avec le tissu urbain. Et là, pour le coup, on a un problème de gouvernance. C'est que chaque acteur pris isolément voit bien que c'est important. Mais qui est-ce qui décide? Qui est-ce qui coordonne? Qui est-ce qui fédère? Qui est-ce qui paye aussi? C'est compliqué. La DRIEA, eh bien, au fait, M. Leblanc préside un groupe sur l'aménagement de la défense. Alors là, c'est le sommet du sommet du sommet de la complexité par le nombre d'acteurs, par la complexité des flux et par les montants financiers engagés. Et le résultat, c'est que si chacun pris isolément est très désireux de concourir à faire quelque chose de plus efficient, la DRIEA, en l'espèce, a énormément mal à fédérer pour que tout le monde s'aligne, pour qu'on finisse par avancer. Et pour moi, le vrai sujet, c'est ni le STIF, ni la SGP, ni la DRIEA, ni l'État, ni, c'est qu'aujourd'hui, notre système manque, j'allais dire, d'une organisation où il y a à la fois de la coordination et un peu de coercition de temps en temps pour qu'on finisse par aligner les gens, pour qu'on fasse. Et les marchandages dans lesquels on est sont longs, coûtent de l'argent, on fait 10 fois des études pour se convaincre, et on n'avance pas assez vite. Mais ceux qui en pâtissent, c'est nos passagers. Donc moi je souhaite qu'on avance sur les hubs. Je pense qu'il y a des progrès de fait, je pense que le montage hub qui a permis la loi sur la SGP a été une énorme avancée, parce que du coup la SGP a les coûts des France, elle a de l'argent, elle a un pouvoir d'intervention, elle a une capacité de fédérer les communes. La difficulté du montage, c'est qu'aujourd'hui la SGP est tournée vers les gares, les infrastructures, et peu vers l'exploitation, par construction, puisque c'est un opérateur qui sera désigné par appel d'offres, et qu'une partie des questions d'information voyageurs à l'intérieur de la ligne et dans la ville, ou entre les lignes versus la ville, ne sont pas encore remises sur la table, parce que l'acteur qui pourrait s'en occuper, il n'est pas encore là. Donc je dirais, côté SGP, les choses se présentent un peu moins mal, pour autant, il y a de vrais sujets d'aménagement, pour moi, liaison, tissu urbain, système de transport en commun. Contrastif productivité. Ben, moi, j'étais sur le thème aménagement du territoire, peut-il être démocratique ? Ben, on peut parler du bilan économique et tout ce que vous voulez. Moi, je crois qu'il y a des choses qui sont désagréables, mais qu'il faut savoir reconnaître. Aujourd'hui, une part importante de nos trains roule très peu chargée en marcheuse. C'est une stratégie de desserte que veut l'autorité organisatrice et le conseil régional. Dans acte 2. Bon, très bien. On nous dit que vous devez faire de la productivité. Ça, j'allais dire, si je m'adressais à certains d'entre vous comme clients, comme consommateurs ou comme contribuables subventionnants, ça je peux très bien vous le dire. C'est Zaveka faire mieux pour moins cher. Zaveka. Mais après, il y a aussi à se demander, vu ce que c'est que la production ferroviaire, avec un certain nombre de contraintes, d'organisation et d'immobilisation d'actifs, faut-il toujours faire du train tout le temps et sur toutes les lignes et à toutes les heures? Est-ce qu'il y en a besoin? Ça, c'est là vous retombez dans la notion de représentation politique. Quand je mets des cartes, c'est donc que c'est le bordel ou qu'il y a des travaux ou ça ne va pas. Donc la situation normale, c'est du train tout le temps. Bien, ça a un coût. Alors après, j'entends derrière vous ce que vous sous-entendez, vous ne faites pas assez de productivité. Bon, on fait ce qu'on peut. Si c'était simple depuis 50 ans, ça se saurait.
Non, c'est pas ça, je l'ai entendu. Je l'ai entendu, c'est votre phrase d'accroche. Vous avez dit le 29 février, il y a un incident, il y a un tiers du réseau qui a planté.
Oui.
Comment c'est possible, il faut nous expliquer.
Comment c'est possible? J'ai 1 200 000 passagers du RERA qui ne peuvent plus voyager sur le RERA, qui se déversent sur le reste du réseau. Ben, c'est juste que les trains du reste du réseau ne sont pas assez grands pour gober 1 200 000 passagers plus que d'habitude. C'est tout, c'est extrêmement simple. Les quais de la gare Saint-Lazare sont trop étroits pour encaisser 500 000 passagers de plus en pointe de soirée. Il n'y a juste pas la place. Enfin, les quais de la gare Saint-Lazare, les escaliers de la RATP pour la 14, la 13, etc. Ce que je vous disais là dans cet exemple, c'est qu'on a un exemple de la limite du dimensionnement du système actuel qui permet d'encaisser des aléas, mais pas les gros aléas. Là, on est hors dimensionnement. Alors on peut se dire, Dieu merci, que des agressions de cette nature sont, on l'espère, très peu fréquentes, et que les réactions sociales qui suivent n'ont pas toujours cette ampleur, oui, on peut toujours le souhaiter, et agir en ce sens. Ceci dit, ce qu'il faut quand même se dire, et c'est une des rançons de la zone dense, c'est que quand vous avez un problème, c'est rarement un petit problème, c'est très vite un très gros problème, et je reviens à votre intervention. Le propre pour moi d'être exploitant de masse transit, c'est que bien souvent, quand on tombe sur des problèmes, on rejoint très vite des problèmes de maintien de l'ordre. Moi, j'ai le RER qui est à hoquet. N'importe quelle ligne de notre RER à hoquet, c'est entre 20 et 30 000 passagers sur les bras. Chose qu'un préfet de province gère de temps en temps dans sa carrière. Nous, c'est beaucoup plus fréquent. Et donc, c'est là-dessus que je voudrais insister. Notre activité en masse transit, c'est une activité de transporteur, de synchronisation de flux de trains et flux de passagers, et de régulation des foules. Et la régulation des foules, c'est pas directement l'exploitation des postes d'aiguillage. C'est quand même pas tout à fait la même façon de travailler. Et on essaye d'apprendre au contact des forces de l'ordre, des médiateurs, des gens dont c'est le métier à longueur d'année, des stadistes parfois, comment être plus performant dans la gestion de foule dans ces situations-là. Ce qu'on sait, c'est que notre appareil de production, infrastructure ou parc de matériel roulant, permet pas d'encaisser des événements de cette ampleur. Donc, ce que vous ne pouvez pas faire tout de suite, vous le faites en étalant dans le temps. C'est-à-dire qu'on dit aux gens, nous attendons. Apparemment, c'était pas ça que vous vouliez dire.
Non, j'ai du mal à m'exprimer. Je voulais savoir quel était, comment vous discutiez. Parce que vous ne pouvez pas absorber ce genre d'événement, ce qu'on peut très bien comprendre, ça n'y a pas de doute. Et comment vous discutez dans la maison SNCF pour éviter que ces événements se reproduisent? J'espère qu'à l'avenir, quand un conducteur sera agressé, j'espère qu'il n'y aura pas d'autres. Est-ce que vous avez des procédures qui empêchent que tout le monde se mette en grève?
Écoutez, je pense que là, c'est pas tout à fait le même sujet. Hein. Avoir des procédures, c'est une chose. Enfin, excusez-moi, moi, je suis pas à l'aise avec votre question. J'ai été patron pendant de nombreuses années en opérationnel. Quand j'ai des agents qui se faisaient casser la gueule, je n'ai pas pour leur parler d'une procédure. Je vais aller voir pour leur parler de ce qui leur était arrivé, savoir où ils en étaient, où ils en étaient avec leur famille, qu'est-ce qu'on pouvait faire pour s'occuper d'eux et s'occuper de leurs collègues. Et c'est par là que ça se passe. Alors la procédure, c'est de dire à l'encadrement opérationnel, dès qu'il y a ça, voilà un certain nombre de gestes qu'il faut avoir tout de suite, on s'occupe de nos personnels et nos passagers, plutôt qu'une procédure juridique. Et la procédure juridique, c'est ce qu'on met en avant quand on a échoué sur le reste. Alors après, je vous dis simplement, pour l'avoir vécu de près, quand vous êtes en face d'un conducteur qui, en pointe, après que des loulous aient tiré un signal d'alarme, en allant se faire réarmer le signal d'alarme au milieu des voies, se fait casser la gueule, et lui dire « mais mon gars, c'est pas grave », faut pas exagérer non plus, parce que des fois, quand même, ils sont quand même pas en très bon état. Donc il y a d'abord du respect pour nos opérateurs, du soutien, faire en sorte... autant qu'on le peut, mais c'est encore une fois le maintien de l'ordre et la pacification de la ville, c'est pas si simple que ça, faire en sorte qu'il n'y ait pas des gens qui se comportent comme ça, mais bon, encore une fois, si on avait trouvé la solution, je pense qu'on la partagerait sans problème avec tous ceux que ça peut intéresser. Mais c'est pas si simple. Donc, le fond du fond, c'est un travail extrêmement usant de contrôle du territoire des trains, des gares, de faire que les incivilités s'y produisent moins, en ayant aussi un travail avec les éducateurs de rue et avec les gens des cités pour essayer de réguler l'agressivité autant qu'on peut le faire. Mais on ne peut pas l'éviter complètement. Nous avons des formations régulières, notamment pour nos brigades de contrôle, où nos conducteurs, on leur dit, il y a des fois, quand vous êtes dans une situation où la tension monte et vous avez l'impression que la violence n'est pas loin, arrêtez, n'essayez pas de convaincre, n'essayez pas de justifier, parce que vous allez vous mettre en danger, et c'est pas ce qu'on vous demande. On a parfois des agents qui, imprégnés de la noblesse du service public et de la noblesse de leur tâche, disent que c'est pas normal que les gens se comportent comme ça. Ils ont raison. Mais pas au point de se mettre en danger eux-mêmes. Et donc, on a des formations et on revient dessus. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est le côté très pesant, très difficile à vivre, quand c'est votre métier et que vous avez ça. Peut-être pas tous les jours, Dieu merci, mais tous les mois. Au bout d'un certain temps, il faut pouvoir évacuer tout ça. C'est pas si facile. Donc oui, on essaye d'avoir des procédures, de la formation, de l'accompagnement. Et tout ce qu'on peut dire, c'est qu'on fait nos meilleurs efforts. Les jours où il y a des problèmes et où il y a des débrayages, évidemment, les gens ne sont pas contents, certes. Évidemment, ils en veulent. Mais ce que je demande à ce moment-là, c'est qu'ils en veulent d'abord à l'employeur avant de s'en prendre aux salariés. Parce que c'est notre responsabilité de patron de faire en sorte que nos salariés puissent travailler normalement. Et on y arrive aussi bien que possible. Voilà. Les infrastructurantes. Ouais. Ça, c'est un vieux débat. Est-ce que c'est l'infra qui est structurante ou est-ce que c'est l'infra qui suit la structure du territoire? Les deux en général. La France est pleine d'infrastructures structurantes qui allaient changer le pays. Pensez à ce qu'on a pu raconter sur l'aérotrain il y a 50 ans entre Paris et Orléans. Orléans est devenue la deuxième capitale de la France. Bon, on a vu ce que ça a donné. Les infrastructures structurantes, je vous donne un exemple volontairement décalé. La 39, un sujet que je connais bien, alors vous ne connaissez peut-être pas, c'est l'autoroute qui fait Besançon-Lyon par le piémont du Jura. Belle autoroute par Bourg-en-Bresse. Infrastructure structurante. Il y a une zone d'aménagement économique à chaque échangeur. Enfin, Il y a les critos. Eh bien, il y en a quand même qui ont marché, mais peu nombreuses. J'avais discuté avec des géographes de l'université de Besançon à l'époque, qui avaient fait un travail d'observatoire, le dit à 39, et qui s'étaient posé la question, pourquoi il y a des endroits ça marche et d'autres ça marche pas. C'est simple, quoi. Les gens s'implantent là parce qu'il y a de la main-d'œuvre formée, parce que les impôts sont pas trop élevés, parce que le foncier est pas cher, et puis parce que le temps de parcours par rapport au client principal est intéressant. Prenez un exemple dans ce registre, la Brioche Pasquier. Ils ont des usines dans toute la France. Quand vous regardez où ils mettent leurs usines, vous dites, quelle idée ils ont de se foutre là. Ils se mettent à côté d'un échangeur d'autoroute qui leur permet d'arroser un certain nombre de grandes agglomérations. Donc ils ont fait un raisonnement purement logistique. Dire que l'infrastructure est structurante, oui, parce que ça permet d'aller vite dans le cœur de l'agglomération. Mais alors après, entre deux échangeurs voisins, ça va se jouer à autre chose. Donc l'infrastructure peut être structurante, c'est vrai. Ce qu'il faut bien voir en zone urbaine, c'est que l'effet structurant est tempéré par le retard à la mise en service de l'infrastructure. En d'autres termes, si vous avez un endroit extrêmement dense qui est en sous-équipement, vous mettez l'infrastructure, vous rattrapez, mais vous ne structurez pas grand-chose parce que c'est déjà là. Et quand vous avez un bâti, vous rasez pour reconstruire, ça ne se fait pas en 3 ans, ça se fait sur 20 ans. Donc le côté structurant, ça va quand c'est en anticipation, mais en ayant une vision claire et raisonnée des facteurs de développement économique du territoire qui fait que l'anticipation a une probabilité élevée de se réaliser. Vous pouvez créer une autoroute Aurillac-Clermont-Ferrand. De là à dire que vous allez réurbaniser la vallée du Lignon, moi j'ai un doute. Puis je tiens pas parce que c'est beau comme ça. Mais encore une fois, il faut vous dire, le territoire desservi, qu'est-ce qu'il y a comme création de richesses possible? Et donc est-ce que l'infrastructure va permettre cette révélation de richesses? S'il n'y a pas, l'infrastructure, elle ne structurera rien. Elle passe au travers et c'est tout. Donc le débat, il est compliqué. Le vrai sujet, là je vous rejoins, c'est comment sommes-nous organisés en France pour instruire et apprécier le caractère désirable et éventuellement structurant. On a une génération d'économistes qui ont fait des calculs socio-économiques. Le problème de calcul socio-économique, c'est que ça a été quand même assez largement dévoyé. Grosso modo, je vous la fais courte, je fais un projet d'infrastructure, sa rentabilité économique est insuffisante. Oui, mais la socio-économique est bonne. Donc on va peut-être faire. Puis si la socio-économique est tangente, on va adapter le modèle économique pour dire que quand même c'est bien. La difficulté, en fait, c'est de dire que c'est peut-être structurant, mais non, on ne peut pas. On n'a pas les moyens de se le payer. Alors jusqu'à présent, dans notre pays, nous n'avons jamais eu le courage de dire il y a des trucs, ce serait super, mais on a d'autres priorités. Parce que ça, on ne peut pas, c'est trop cher, vu ce qu'on a à faire par ailleurs. Pour moi, le discours que je vous tiens, c'est on arrive à un effet falaise sur une partie des équipements publics, vu leur âge. L'essentiel des équipements publics du pays a été reconstruit dans les années 50 après la guerre. Ça fait 60, bientôt 70 ans. Les poteaux des lignes à haute tension commencent à être un peu vieux, les caténaires de la SNCF aussi. Il y a un moment, il va falloir remettre au pot pour remettre ça en route, quoi. Si on met l'argent là-dedans, on ne va pas pouvoir le mettre pour faire encore plus à côté. Il y a un moment, il faut choisir. Sur les emplois-logements, je suis entièrement de votre avis. Un des sujets, effectivement, c'est qu'on a inversé le système. Le transport sert à réguler les inégalités de logement. Et le transport a une autre caractéristique extrêmement intéressante, c'est une fiscalité qui ne dit pas son nom. Au fond, le système de transport en commun est une grande machine de redistribution par l'impôt, puisqu'il est financé par l'impôt en grande partie. C'est pas choquant en soi, mais c'est pas toujours intégré dans la rationalité des décisions. Je pense que les débats qu'on va avoir dans les prochains mois ou les prochaines années sur la tarification des transports en commun, je parle de l'urbain ou du périurbain, hein. En France, vous avez des voix qui sont élevées, il y a eu un colloque il y a un an à l'Assemblée nationale où il en était question, le passager ne contribue pas assez par le prix du billet au coût du transport en commun. Et réponse, oui, mais il y a des gens qui n'ont pas un gros pouvoir d'achat, qui ne peuvent pas payer plus. et c'est les plus nombreux. Donc forcément, c'est aussi là qu'on trouve le plus de clients des transports en commun. Ça, c'est un débat fondamental de société qui ne peut pas se limiter à « faut pas que ce soit cher ». Parce qu'à un moment donné, quand il n'y a pas assez d'argent, il faut bien se demander comment on fait. Alors après, bah, vous devez vous poser la question, est-ce que c'est pas cher pour tout le monde, ou est-ce que vous avez une tarification qui est le reflet des revenus, quoi, par exemple. Et donc c'est un autre débat. Tout ce que je peux dire, c'est que de toute façon, on ne pourra pas éluder éternellement et le problème du financement par le passager des systèmes de transport en commun et l'impasse du financement du réseau d'infrastructures. Donc l'avenir dira, dans les prochaines semaines, mois, années, je ne sais pas, comment notre pays aura su construire une réponse cohérente avec l'aménagement de son territoire. Moi, je ne suis qu'un ingénieur, je n'ai donc pas d'opinion autre que celle d'un citoyen ingénieur. Et donc, ce n'est pas le lieu ici d'en parler.
Merci beaucoup.